Ce balado a été produit par un étudiant en droit sous la supervision d'une avocate. Ceci n'est pas un avis juridique, il s'agit d'informations juridiques. Pour plus de renseignements, il vous est conseillé de vous renseigner auprès d'un avocat ou d'un notaire. Donc bonjour à tous, ce balado va être divisé en trois sections, soit les règlements à l'amiable, la médiation et la justice réparatrice. Commençons donc par le règlement à l'amiable. Il est possible de convenir un arrangement à l'amiable avec le demandeur. Un tel règlement se fait hors cours à la suite de négociations tenues entre les parties. L'entente à l'amiable peut annoncer un règlement financier de l'affaire ou autre type d'arrangement. Par exemple, des travaux à exécuter ou des biens à remettre. Dans le cas d'un règlement financier, vous pouvez demander au greffier de l'homologuer. Une fois homologué, votre entente équivaudra alors à un jugement. Elle pourra ainsi faire l'objet de mesures d'exécution, par exemple la saisie, si elle n'est pas respectée. Elle va avoir force exécutoire. S'il s'agit d'un autre type d'arrangement, vous devrez en fournir les détails. Si cet arrangement n'est pas respecté, une audience devant le tribunal sera tenue à la demande d'une des parties. Si votre dossier est déjà déposé, vous pouvez tenter de régler à l'amiable avec la médiation. Abordons donc la médiation. Selon l'article 1er du Code de procédure civile du Québec, les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d'un commun accord par les parties intéressées dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né. Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties ou différends de même que la médiation ou l'arbitrage, dans lesquels les parties font appel à l'assistance d'un tiers. Nous allons nous concentrer, comme je l'ai mentionné plus tôt, sur la médiation. Donc, la médiation est le mécanisme qui permet de concilier les parties. Le médiateur est là pour aider les parties à s'entendre et à trouver une solution. Il ne prend pas de décision. Les avantages de la médiation sont qu'ils sont moins coûteux que d'aller directement en cours quand on paye seulement un salaire, celui du médiateur. De plus, la médiation est souvent plus rapide que d'aller directement en cours. Il y a aussi plusieurs principes qui existent à la médiation. Donc, d'entrée de jeu, les parties doivent se partager les coûts des procédures. Ensuite, on fait appel à un tiers pour tenter de régler le litige. Aussi, il y a le principe de la coopération des parties. Donc, il faut coopérer activement à la recherche d'une solution. Il y a aussi le principe de proportionnalité. Donc, le principe de proportionnalité de la procédure est de se limiter à ce qui est vraiment nécessaire pour un dossier, à la mesure proportionnelle à l'ampleur du dossier. De plus, il y a le principe de bonne foi. Donc, il faut participer au processus de médiation avec une bonne foi, donc avec l'intention de le faire aboutir. C'est aussi le cas d'ailleurs pour le médiateur. Ensuite, il y a le principe de la confidentialité. Donc, le médiateur ou les participants sont tenus à la confidentialité. Il y a évidemment quelques exceptions qui existent à ça, mais c'est un principe qui tient route dans la grande majorité des cas. Il y a aussi la non-contraignabilité. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à témoigner. C'est vrai, donc, en médiation dans le cas du médiateur. Un exemple appliqué de la médiation serait la conciliation entre locateur et locataire. Donc, le tribunal administratif du logement offre un service de conciliation qui permet de discuter avec l'autre partie en présence d'un conciliateur, d'un médiateur, pour tenter de régler votre litige. Il s'agit donc, comme j'ai mentionné plus tôt, d'une démarche rapide. Dans le cas du tribunal administratif du logement, c'est gratuit. C'est sur base volontaire, c'est confidentiel et c'est satisfaisante. Abordons maintenant la justice réparatrice. Donc, la justice réparatrice, c'est un processus qui encourage les personnes contrevenantes à assumer les conséquences de leurs gestes et à réparer leurs torts ou leurs dommages causés par un crime. Et ça, c'est selon Éducalois. Elle peut être complémentaire ou elle peut être une alternative au système de justice traditionnel. Les avantages de celle-ci, c'est qu'elle est flexible. Donc, elle peut être entreprise au moment qui convient le mieux aux personnes impliquées. Il existe différents programmes de justice réparatrice, d'ailleurs, au Québec, à cet égard. Elle est aussi sécuritaire, donc la justice réparatrice n'est pas recommandée quand il y a un danger pour la personne victime. D'ailleurs, les organismes qui sont spécialisés en justice réparatrice aident les personnes victimes à identifier si cette option est sécuritaire pour elles. La justice réparatrice doit être volontaire et la personne contrevenante doit reconnaître ses torts pour y participer. Les médiateurs, les médiatrices ou les personnes qui animent des rencontres dans des organismes de justice réparatrice sont qualifiés pour accompagner les personnes qui traversent des situations difficiles. Finalement, le processus de justice réparatrice est confidentiel. Donc, les personnes qui sont impliquées dans un processus de justice réparatrice doivent respecter la confidentialité et ne peuvent donc pas partager ou même diffuser l'information qui a été transmise pendant tout le processus. La dernière partie de ce balado va maintenant porter sur le programme d'accompagnement Justice Santé Mentale, aussi connu sous le nom de PAJ-SM. Donc, la clientèle visée pour ce programme, le programme s'adresse aux personnes représentant du point de vue de la santé et des services sociaux différentes vulnérabilités, notamment liées à un trouble de santé mentale, de déficience intellectuelle ou du spectre de l'autisme. Bien évidemment, la personne doit avoir commis une infraction, puis il doit exister un lien entre la problématique et la commission de l'infraction ou la capacité de l'individu à faire face au processus judiciaire. Finalement, l'accès doit être volontaire à prendre part au programme et à se conformer aux différents objectifs établis et consentir aux délais inhérents à la participation du programme. Le programme tend à favoriser l'encadrement et le suivi continu dans la communauté au lieu du recours à l'emprisonnement. Cette approche vise à éviter ou réduire la récidive et ainsi assurer la protection du public tout en favorisant un traitement adapté à la situation personnelle du contrevenant. Quelle est la procédure de ce programme? Alors, en premier lieu, l'accusé est référé par le biais du formulaire « Demande de référence au programme d'accompagnement justice et santé mentale » se trouvant sur le site du programme. Le formulaire peut être rempli par des policiers, par le procureur aux poursuites criminelles et pénales chargé du dossier, par l'avocat de l'accusé, par les intervenants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux lors des rencontres ou même par un agent de probation. S'ensuit une rencontre initiale d'évaluation avec un intervenant pivot. Cette rencontre initiale d'évaluation a plusieurs objectifs. Dans un premier temps, elle permet à l'intervenant pivot d'établir un contact privilégié et individualisé avec la personne. Cette rencontre est également l'occasion de confirmer sa volonté à prendre part et à s'impliquer dans le cadre du programme. L'intervenant pivot doit recueillir une multitude d'informations qui permettront ensuite à l'équipe d'établir un plan d'intervention. La Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale de Québec, prévoit des plages horaires spécifiques pour les séances du PAJ-SM. Lors de ces journées, une concertation a lieu entre les partenaires préalablement à l'audience. Cette rencontre est l'occasion de mettre en commun l'ensemble de l'information disponible concernant l'accusé. La rencontre permet également à l'intervenant pivot de partager l'information recueillie lors de l'entrevue initiale d'évaluation. Un plan d'intervention est alors élaboré par l'intervenant pivot, l'agent de probation, le procureur aux poursuites criminelles et pénales et l'avocat de défense. Suivant la comparution devant la cour et l'élaboration du plan d'intervention, l'équipe PAJ-SM suggère une nouvelle date d'audience au tribunal. À chacune des audiences de la cour, l'équipe de PAJ-SM se réunit à nouveau afin que l'intervenant pivot puisse faire état de la situation et partager les informations recueillies. Lors de ces rencontres, il est possible que le plan d'intervention soit modifié pour s'adapter davantage aux besoins de la personne et à l'évolution de la situation clinique de celle-ci. La durée totale évaluée pour le suivi est d'environ 12 à 18 mois, afin de permettre à l'accusé de s'investir dans la démarche de suivi et de réhabilitation, d'apporter des modifications nécessaires à son mode de vie et de consolider ses acquis. Il est possible qu'au cours du programme, l'individu ne satisfasse plus les critères d'admissibilité. Effectivement, la personne peut volontairement mettre fin à son implication à tout moment. L'équipe PAJ-SM peut également décider de mettre fin à la participation de l'individu si ce dernier ne collabore plus, si les objectifs du plan d'intervention ne sont pas respectés, si une nouvelle infraction criminelle est commise, ou si le risque de récidive et ou la dangerosité de l'individu deviennent trop élevés. Lorsque l'équipe PAJ-SM détermine que les objectifs du plan d'intervention sont atteints par l'individu et que ses acquis sont consolidés, le programme est considéré complété. Dans ce cas, une dernière rencontre a alors lieu entre les différents partenaires afin de dresser le portrait de la situation actuelle de la personne et son cheminement des derniers mois. Si le programme est complété, selon l'ensemble des circonstances, le procureur aux poursuites criminelles et pénales proposera la suite à donner au dossier. Diverses solutions judiciaires peuvent être envisagées, dont notamment l'arrêt des procédures, une sentence non privative de liberté, une sentence suspendue avec suivi probatoire, etc. À l'issue de cette dernière comparution, la participation de la personne au programme prend fin et le dossier juridique est clos. Cependant, les services offerts par le CISSS demeurent actifs si l'individu souhaite poursuivre son suivi et si cela est pertinent à son rétablissement et à sa capacité à gérer son risque. Les renseignements contenus dans ce balado sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec pour ce qui est du règlement à l'amiable et pour le programme d'accompagnement justice et santé mentale. Pour ce qui est de la justice réparatrice, toutes les informations ont été prises sur le site d'Éducaloi.